Bonjour à tous. Cette semaine, nous arpentons les rayons des magasins à la recherche du juste prix.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comment les prix se forment-ils et quels liens entretiennent-ils avec la valeur ? Vaste question qui traverse la pensée économique depuis ses origines. La plupart des choses ne sont pas estimées à un prix égal selon qu'on les possède ou qu'on souhaite les acquérir. Voilà ce qu'écrit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Nombreux sont les penseurs qui ont nourri la réflexion sur le prix et qui nous éclairent sur les risques d'une soudaine flambée ou d'un brutal effondrement. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons mesurer aujourd'hui l'évolution des prix en compagnie de Florence Janicatrice, professeure d'économie à l'Université de Lille et autrice de l'indice des prix à la consommation paru à La Découverte, en compagnie également de Béatrice Touchelet, professeure en histoire économique moderne à l'Université de Lille. À 14h50, ce sera l'heure du journal de l'écho présenté par Xavier Martinet.
Oh, l'argent, tu n'en connais pas la valeur. Mais ouvre donc les yeux, regarde la vie, regarde tes contemporains. L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fosse dent, invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit, l'obtiendrai-je par des prières, le dévouement ou la vertu? Il ne faut qu'entrouvrir ce coffre et dire un petit mot. Combien ? C'est la force qui gouverne le monde. Et ce petit rectangle de papier bruissant, voilà la forme moderne de la force. Toi, tu es pauvre au point de ne pas le savoir. Tu n'as jamais pu te payer ces gants de peau grise, fourrés de lapin que tu regardes depuis 3 ans dans la vitrine des trois quartiers.
Oui, c'est vrai, mais ils coûtent 800 francs. Je ne peux pourtant pas les voler.
Mais c'est à toi qu'on les vole, puisque tu les mérites et que tu ne les as pas.
Bonjour Florence Janicatrice et Béatrice Touchelet.
Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre un extrait du film Topaz de Marcel Pagnol, sorti en 1951, qui raconte l'histoire d'un maître d'école incarné par Fernandel, devenant peu à peu cynique et malhonnête au contact du monde des affaires. Il suffit de dire combien fanfaronne Topaz. Le niveau des prix, Florence Janicatrice, est important pour celui qui manque d'argent, mais le riche, lui, ne s'en soucie guère.
Je pense que l'extrait que vous nous présentez, il dit déjà quelque chose aussi du capitalisme et de l'accumulation que permet l'argent en fait en quelque sorte et qui est très caractéristique du capitalisme. Mais sur ce que vous dites, vous avez raison, les pauvres en quelque sorte dépensent l'ensemble de leurs revenus en consommation et donc vont avoir une sensibilité au niveau des prix bien plus important que les riches qui consomment qu'une partie de l'ensemble de leurs revenus à la consommation, le reste étant en règle générale épargné ou investi sur des marchés financiers.
Et c'est pour ça que le calcul de l'évolution des prix à la consommation est particulièrement important, un calcul qui est à la fois technique mais qui est aussi politique.
Oui, alors l'indice des prix à la consommation, on peut dire aussi que c'est la mesure de l'inflation, c'est-à-dire une sorte de mesure de l'évolution générale des prix. Et comme tous les indicateurs macroéconomiques, il y a toujours une tension entre le fait qu'ils soient des instruments un peu de mesure ou des instruments de preuve, comme dirait Alain Desrosières, et des instruments de gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une tension entre vouloir démontrer ces agrégats qui évoluent, mais aussi garder en tête et en mémoire qu'ils sont aussi des instruments qui viennent accompagner le pilotage de l'action publique. Et donc, il est difficile de considérer que les indicateurs, quels qu'ils soient, tous les indicateurs macroéconomiques, ce soient des indicateurs qui soient dépourvus de charges politiques. Vous avez raison.
Ce qu'on constate, Béatrice Touchelet, c'est que ce calcul de l'inflation, cet indice de l'inflation, a fait l'objet de controverses tout au long du XXe siècle.
Tout au long du XXe siècle. Et effectivement, au début, la demande est politique. C'est-à-dire que le premier indice des prix qui ne retient en fait que 13 produits de consommation courante, c'est rien du tout 13 produits. On avait le savon par exemple dedans, répond à une demande politique. C'est au moment où il y a des espèces d'émeutes contre la vie chère dans les grandes villes que...
On est au tout début du XXe siècle.
On est dans les années 1910-1913. Le premier indice va être publié en 1913 par la Statistique Générale de la France avec du coup très très peu de... très peu de biens hein, qui sont pris en compte. Et c'est vrai que le gouvernement veut savoir s'il y a ou pas une forte augmentation des prix.
Et alors justement, il faut peut-être en passer par une explication de l'élaboration de cet indice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est calculé aujourd'hui, cet indice des prix à la consommation, Florence Janicatrice?
Bon, en gros, si vous voulez avoir une mesure de l'évolution des prix, vous pouvez prendre les prix individuellement, mais il faut bien faire une sorte d'agrégat de l'ensemble de l'évolution des prix. Donc comme le remarquait Béatrice Touchelet, en 1913, on retenait une sorte de panier de biens un peu représentatif d'une consommation ordinaire d'un ménage ouvrier avec enfant de la région parisienne. Et on regardait comment évoluait en moyenne hein, ce panier représentatif dans le temps. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont changé. On essaye de mesurer presque l'ensemble de l'exhaustivité de la consommation, plutôt d'un consommateur moyen. Donc ce sont 1100 variétés qui sont collectées, presque 400 000 relevés de prix qui sont faits chaque mois par l'INSEE et qui permettent, voyez, en les agrégeant, de regarder comment ça évolue dans le temps. Et c'est cela qui sera considéré comme la mesure générale des prix.
Et cette évolution...
L'évolution générale des prix.
Cette évolution et ce calcul sont particulièrement critiqués, ils l'ont été, on l'a dit, tout au long du XXe siècle. On va revenir sur cette histoire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, à nouveau, cela revient dans le débat public. Il y a quelques jours, Emmanuel Todd a estimé que le niveau de vie avait davantage baissé après la crise des subprimes que ce que dit l'INSEE. Et ça, ce serait à cause de l'inflation qui serait sous-estimée, Florence Janicatrice.
Oui, alors j'avoue que ce moment de la controverse avec les travaux d'Emmanuel Todd d'une part, mais aussi antérieurement à lui, il y a quelques mois, ceux de Philippe Erlin qui était encore plus véhément à l'endroit de l'INSEE.
Il en avait parlé à ce micro.
Voilà, sont assez intéressants parce que ils témoignent en fait et ils s'inscrivent vraiment dans le prolongement de très très grandes controverses qui ont traversé toute l'histoire de l'indice des prix. Bon, Béatrice Touchelet pourrait l'évoquer aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces controverses, elles ont été plus ou moins éclatantes, plus ou moins feutrées selon les périodes de l'histoire et en particulier, ces controverses ont été très très fortes depuis que l'inflation, elle sert soit directement, soit de manière plus indirecte d'indexateur pour les petits salaires, pour les prestations sociales, avant la période Macron pour les pensions, etc. etc. Et ça sert de repère un peu cognitif, collectif, si je puis m'exprimer ainsi, pour finalement négocier des augmentations de salaire. Hein. Et à partir du moment où c'est un repère décisif, eh bien, la manière par laquelle on le mesure fait l'objet de controverses. Donc pour les uns, par exemple les syndicats, peut-être les gilets jaunes à leur manière, etc., eh bien l'indice des prix est plutôt sous-estimé parce que ça leur permettrait, si elle était un peu revalorisée, de demander des revalorisations de leur, voilà, de leur revenu, disons, pour faire vite. Mais il faut aussi savoir que pour d'autres catégories d'acteurs, qui d'ailleurs ont changé dans le temps, aujourd'hui plutôt les économistes un peu dominants, bon, on peut lire les travaux de Philippe Aguillon, ou même de Larry Summers aux États-Unis, bien pour eux, l'indice des prix, de toute évidence, est totalement surestimé. Et donc, ils seraient plutôt favorables, eux, à un tirage vers le bas, si vous voulez, des redistributions salariales.
Cette idée que l'inflation serait sous-estimée a traversé le XXe siècle, Béatrice Touchelet, il y a eu à plusieurs reprises cette idée que cela arrangeait l'État d'avoir une inflation qui était estimée à un niveau assez faible.
Alors, je pense qu'il faut situer un petit peu les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez où l'État, le gouvernement crée en 1950 un salaire minimum interprofessionnel garanti. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous embaucher à moins de ce salaire-là. Et à partir de ça, on est en 1950. En 1952, on utilise l'État, le gouvernement, utilise l'indice de l'INSEE, justement l'indice des prix à la consommation. Et c'est pour définir l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel. Résultat, si l'indice des prix augmente de plus de 5%, à ce moment-là, non, c'est pas de plus de 5. Si l'indice des prix augmente et dépasse un niveau qui est de 149, un point, enfin on s'en fiche, à ce moment-là, automatiquement, le salaire minimum augmente, lui, de 5%. Mmh. Et ça, du coup, tous les salaires vont augmenter. Et résultat, là, le gouvernement n'a évidemment pas du tout intérêt à ce qu'il y ait un phénomène de boule de neige à partir de ce moment-là, d'où des manipulations gouvernementales ouvertes à partir en fait de 1952. Dès 1952, Antoine Pinet, qui est président du Conseil à ce moment-là, demande au directeur général de l'INSEE de minimiser, il demande surtout la composition de l'indice.
Ça, des manipulations ouvertes, dites-vous, quelques temps après la création de l'INSEE, donc l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, qui est créé en 1946. Vous parliez au départ des 13 articles de consommation courante au tout début du XXe siècle sur lesquels s'appuyait cet indice. En 1946, on est déjà à 213 articles, donc il est beaucoup plus complet cet indice.
Beaucoup plus complet. Et il s'appuie sur des études de consommation qui sont des études qui vont se développer tout au long des années 50. Une caractéristique importante de cet indice, c'est que conformément à des demandes de statisticiens à l'échelle internationale, tous les postes sont officiels et sont publiés. Ça veut dire que dans le bulletin mensuel de la statistique, vous savez exactement que tel produit sera retenu dans l'indice. Autrement dit, vous savez que ce sera la pomme de terre nouvelle, ce sera le fromage à pâte molle qui est le camembert du moulin, etc. C'est le moulin à café, ce qui veut dire que l'État n'a qu'à bloquer.
Et dès la création de cet indice des prix à la consommation, il y a deux visions qui s'affrontent. Celle qui estime que le marché fixe le prix juste, le prix d'équilibre en quelque sorte, on en reparlera demain. Et celle qui défend au contraire la nécessité d'une intervention de l'État à travers des blocages de prix.
Je crois que là, on ne s'intéresse pas tellement à l'origine du prix, en réalité. C'est vraiment quelque chose de très politique. Le prix, on le constate et on le mesure. Et du coup, à partir du moment où il dépasse un certain niveau, eh bien, on va augmenter les salaires. Je ne pense pas qu'il y ait des débats théoriques dans ces questions-là.
Florence.
Oui, enfin, ce que je peux ajouter, c'est que c'est pas tellement la question du juste prix qu'on retrouve en tout cas dans la manière par laquelle on mesure l'évolution des prix. En revanche, ce que l'on retrouve énormément dans la littérature depuis assez longtemps d'ailleurs, c'est la notion de prix pur. C'est l'idée selon laquelle, au fond, dans une variation de valeur, il y aurait ce qu'on entend souvent, à la fois une variation de prix, une variation de quantité, mais aussi quelque chose qui s'appelle la variation de qualité. Et que si on veut mesurer l'évolution des prix, eh bien, quand on voit l'évolution d'une valeur, il faut se débarrasser de ce qui apparaît pour certains statisticiens comme étant du bruit. Et le bruit, c'est les variations de quantité. Je vais prendre un exemple. Si le sachet de thé a baissé de quelques grammes, eh bien, il faut raisonner toute chose par ailleurs en termes de quantité. Et donc, il faut retracer un indice des prix qui tienne compte, par une règle de trois, de l'évolution de la quantité de grammes dans votre sachet de thé. Mais il y a aussi l'effet qualité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, le thé est bio et n'est plus du thé conventionnel, eh bien, il faut tenir compte de cet effet de qualité. Et ce que c'est de faire l'indice des prix depuis le début d'une certaine manière, peut-être depuis plus les années 70 que vraiment le tout début, c'est de raisonner vraiment à panier constant, et dans le panier constant, il y a la question de la quantité, mais il y a aussi la question de la qualité. Ça rejoint un petit peu votre question tout à l'heure est-ce que les indices sont politiques ? À vrai dire, la notion de qualité,
elle est extrêmement subjective.
Elle ne peut jamais être totalement objectivée, elle nécessite de mettre en place des processus d'objectivation, et donc il y a toujours quelque part une représentation du bon, du bien et du désirable. Et la qualité, elle est très située et dans le temps et dans l'espace.
Et c'est peut-être ce qui explique le décalage que l'on observe entre les statistiques et le ressenti des Français. Un décalage que tentait déjà d'expliquer Jean Ripert, directeur général de l'INSEE en 1971.
La première raison, c'est qu'un indice statistique, cela réunit des informations sur une moyenne. Avec notre indice, nous cherchons à retracer l'évolution des prix des biens qui sont consommés par un ensemble de Français. Mais chacun de ces Français n'a pas la même façon de consommer, ne consomme pas exactement les mêmes produits. Et deuxièmement, chacun a son idée sur l'évolution des prix. Comment la faisons-nous ? Par les achats les plus courants, les plus quotidiens, ce que nous achetons sur le marché, le journal, le paquet de cigarettes. Mais nous consommons beaucoup d'autres choses, avec des périodicités qui peuvent être longues et notre mémoire n'est pas fidèle. Ainsi, par exemple, l'indice moyen des prix a augmenté d'un peu plus de 40% depuis 1962. Et je pense que peu de personnes perçoivent que par rapport à cette moyenne, l'indice des automobiles n'a augmenté que de 26%, que l'indice des équipements ménagers n'a augmenté que de 10%, et personne ne se rappelle que le prix des réfrigérateurs en 1962 était supérieur de 20% à ce qu'il est aujourd'hui.
Notre mémoire n'est pas fidèle, dit Jean Ripper. C'est ce qui explique, entre autres, la persistance de ce décalage, Béatrice Touchelet.
Alors, la période, ce qui est intéressant là, parce que c'est un entretien de 1971, et c'est à ce moment-là que l'INSEE change d'indice, il y a plusieurs changements, mais là on passe à un indice à 295 postes, qui est depuis 1966 déjà un indice calculé à l'échelle nationale, donc on est parti, et qui concerne tous les ménages urbains de revenus moyens, disons. Donc on a là un indice qui a vraiment pris en valeur, ça c'est évident. On essaye d'introduire des nouveautés, par exemple comment introduire la télévision qui n'existait pas dans... comment introduire, et ça c'est aussi intéressant, la machine à laver, la vaisselle. Comment chiffrer ça? Alors c'est le prix de la vaisselle que fait la ménagère, parce que c'est jamais le ménager qui fait la vaisselle, c'est bien connu. Donc c'est très difficile cette histoire de quantité dont parlait Florence, Jeannicatrice tout à l'heure. Et 71, le changement d'indice est déjà très critiqué, parce que on considère que si l'INSEE change pour un nouvel indice des prix, c'est peut-être que il va vouloir cet institut-là masquer l'inflation.
Un changement d'indice très critiqué parce que la perception est différente, oui. La perception de la hausse des prix, Florence Jeannicatrice.
C'est toujours de la part des statisticiens comme de la part des politiques, il y a toujours un petit peu cette inquiétude qu'il puisse y avoir un manque de crédibilité dans l'indice des prix. Et une manière, c'est sans doute pas la seule, mais une manière d'estimer un peu le décalage qu'il pourrait y avoir entre la mesure de l'indice des prix telle qu'officialisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques d'une part, et la perception qu'ont les individus, c'est d'interroger les individus dans des méthodes d'enquête par sondage sur, selon vous, diriez-vous que l'inflation a plutôt augmenté ou baissé ou est restée stable, etc. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque période un peu de conflit un peu fort, il y a toujours eu un hiatus entre la perception qu'ont les ménages et l'indice officiel qui est et la perception des ménages est souvent au-dessus de l'indice officiel. C'est vraiment très très rare, je pense même pas à ma connaissance de l'histoire que la perception ait été inférieure. Évidemment, il y a plein d'explications, j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera du passage à l'euro, mais c'est parce que ça a été un moment très spectaculaire de cette perte de crédibilité dans la mesure de l'indice des prix à la consommation.
Vous parliez tout à l'heure, Béatrice Touchelet, des pressions qui avaient pu être exercées dans les années 50 sur l'INSEE. J'aimerais qu'on y revienne un instant avant de voir si ces pressions prennent aujourd'hui une forme différente. À l'époque, c'est la Direction Générale des Prix, rattachée au ministère des Finances, qui tente de tirer artificiellement l'indice à la baisse.
Alors, la Direction Générale des Prix est créée pendant la période de Vichy pour contrôler les prix. Il y a des prix qui sont contrôlés de façon il y a très nombreux prix qui sont contrôlés. Effectivement, il y a des tensions très très fortes. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que cette direction est rattachée au ministère des Finances, qui est le ministère où on a le plus de primes. Enfin bon, l'INSEE est rattaché à cette époque-là au sous-secrétariat, disons, des affaires économiques et même à un moment au ministère du Commerce. C'est vous dire que on a là deux institutions qui ne sont pas en train de lutter à armes égales. Et effectivement, le bras armé en fait du gouvernement qui ne voudrait pas que l'indice augmente et dépasse ce fameux seuil de 149,1, c'est la Direction Générale des Prix. Ça c'est sûr, du contrôle des prix.
Et on peut par exemple mobiliser l'exemple des leçons particulières de l'école Berlitz. On vous écoute, Béatrice Touchelet.
Oui, alors, ce qui était retenu dans l'indice, c'était la leçon particulière. Et le directeur de l'école, je sais pas si c'était Berlitz ou Pigier, enfin qu'importe, le directeur de l'école demande rendez-vous au directeur général de l'INSEE et lui dit, écoutez, vous ne pouvez pas considérer que vous faites un indice des prix qui représente la consommation de ménages, disons ouvriers, employés, si vous utilisez la leçon particulière. Utilisez donc les leçons qui sont des leçons collectives, bien entendu. Et résultat, le directeur entend tout à fait bon, et on change à l'intérieur de l'indice, on ne retient plus les leçons particulières, mais on prend les leçons collectives. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement? Évidemment, le prix des leçons particulières augmente très fortement. Par contre, on a un gel, on assiste à un gel. C'est la même chose avec les bouchers, c'est la même chose avec les pommes de terre nouvelles, c'est aussi la caricature.
Ce qui tire l'indice à la baisse.
Disons, si je peux juste ajouter un tout petit point, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une première période, je ne dis pas qu'il y en a eu d'autres d'ailleurs vraiment dans l'histoire de l'indice des prix à consommation, mais c'est une période très singulière de vraie politique du chiffre. On connaît ces politiques du chiffre sur d'autres agrégats macroéconomiques, comme les chiffres du chômage. Vous voyez, au lieu d'avoir une politique pour réduire le chômage, on a une politique pour réduire les chiffres du chômage. Ça, c'est connu dans l'histoire et il y a eu des périodes de fortes controverses. Bah, ce qu'explique Béatrice Touchet, c'est précisément ça. C'est la période où le gouvernement intervenait directement, non pas pour réduire ou maîtriser l'inflation, mais il intervenait pour réduire les chiffres dans l'inflation, ce qui est quand même très, très différent. Et c'est la raison pour laquelle l'INSEE a ensuite développé ce qu'on peut appeler quand même un culte du secret autour de la composition de l'indice pour des bonnes raisons, pour des raisons de mise à distance du politique. Voilà. Alors le politique est revenu par la fenêtre, mais d'une autre manière.
Oui, parce qu'à partir de 1957, on a un contrôle de l'État sur l'INSEE qui va encore se renforcer. On a même pu parler de mise sous tutelle, Béatrice Touchet.
Ce qui se passe, c'est que le gouvernement dicte à l'INSEE un indice des prix dit des 179 articles qui va être un indice SMIC. Donc il y aura un indice qui va servir uniquement à fixer le niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont la composition est dictée à l'INSEE. Donc là, effectivement, on peut dire parallèlement, l'INSEE travaille d'autres indices, enfin améliore son indice, introduit les fruits et légumes, enfin ça on s'en fiche un peu, mais n'empêche que ça veut dire que sur le plan des techniques, c'est très très important. Parallèlement, en fait, c'est au moment où, et puis l'INSEE est obligé de publier cet indice-là, qui est publié sous, alors j'ai noté, indice défini par le décret du 17-9-57. Donc ça veut bien dire que, et dans tous les bulletins de la statistique, on publie cet indice, mais on publie à côté l'indice des 250 articles, qui est l'indice INSEE.
Mais cette transparence de l'indice, elle est à double tranchant. Est-ce que les acteurs économiques ne peuvent pas s'emparer de ces informations ?
Des informations lesquelles,
pardon. Qui sont publiées par l'INSEE. Elle a été extrêmement transparente. Dans son histoire, elle va peu à peu dissimuler certains éléments qui composent le panier de l'indice parce que ça
alors,
posait
ça,
un certain nombre
obligation.
De problèmes.
Non, je ne pense pas qu'il y ait volonté. De toute façon, à partir de 1947, le premier indice, là, si vous faites un indice des prix, si vous faites un indice des prix dont dans lequel la liste des biens qui seront retenus et donc les biens dont les prix vont être relevés systématiquement est officielle, complètement ouverte à tout le monde. À ce moment-là, il est absolument évident qu'il y aura des manipulations, que ce soit du côté de l'État qui n'a pas envie, ou bien pourquoi pas des syndicats de la grande distribution, pourquoi pas. Enfin, si c'est, ça paraît un petit peu logique. Il y a un minimum de secret, je pense. Enfin, moi, je suis pas statisticienne, mais il y a un minimum de secret à respecter pour que l'indice soit entre 12 guillemets, mais objectif. Sinon, l'indice n'a pas de sens. Et du coup, l'indice est valorisé parce que c'est un consensus, hein, il bénéficie d'un accord. Bon, alors, de moins en moins, là, je parle pas pour la période la plus contemporaine, mais voilà, il faut qu'il y ait secret quelque part, sinon...
Je pense que c'est excessif de parler de dissimulation. Hein. Je pense que c'est la terminologie, là, il faudrait plus nuancer. Je pense que la mise à distance, en tout cas pendant cette période qu'évoque Béatrice Touchelet, la mise à distance du gouvernement sur la manière par laquelle on aurait pu ou pourrait manipuler l'indice est tout à fait heureux d'une certaine manière. Ça permet aussi d'assurer une forme de crédibilité, une forme de fiabilité, une forme de confiance finalement dans cet indicateur qui, on l'a dit, est absolument essentiel. Hein. C'est un indicateur qui est celui qui est le plus ausculté sur le site de l'INSEE parce qu'il a de multiples usages parmi lesquels, enfin, en tout cas, des avatars de l'indice des prix pour les loyers ou bien pour la revalorisation des pensions alimentaires, pour les revalorisations ou les négociations salariales. Donc, c'est vraiment un indice qui est absolument décisif pour des tas d'enjeux macroéconomiques et microéconomiques du ménage, en particulier celui du maintien du pouvoir d'achat.
C'est ça, il y a un enjeu pour l'État de montrer qu'il est capable de maîtriser l'inflation et la stabilité des prix.
Il y a ça, et puis on est quand même dans la construction européenne. C'est-à-dire que dans ces années 60 jusqu'aux années 70 et après, rappelez-vous des différentiels d'inflation entre, la France et l'Allemagne. Hein. Enfin,
alors rappelez-nous.
Dans les années 60, enfin là peut-être que Florence pourra plus, mais dans les années 70-80, on construit l'Europe et l'indice des prix en France. S'il y a une très forte inflation en France, les prix doublent à peu près entre 71 et 79, je crois. Enfin, il y a une très forte inflation. Et par contre, en Allemagne, il y a une inflation qui est beaucoup plus faible. Résultat, comment va-t-on construire l'Europe avec des pays qui sont comme ça, qui ont des capacités visiblement de contrôle différentes ?
Il y a un enjeu fort d'harmonisation, en effet. de l'inflation au niveau européen au moment de la construction européenne.
Oui, disons que moi, j'ai pas tout à fait les mêmes temporalités que Béatrice Touchelet parce que je ne suis pas historienne. Mais pour moi, en tant qu'économiste, mon idée, c'est plutôt de dire qu'il y a un avant et après 1983. Avant 1983, on était sur des politiques très budgétaires où finalement l'important c'était de créer de l'emploi et avoir de la production, hein, voilà, et de la croissance économique. C'était ça les cibles un petit peu de politique économique. Après, évidemment, avec des nuances. Et à partir de 1983, après 2 ans de socialisme, on a vraiment un retour drastique vers des politiques beaucoup plus monétaristes et qui ciblent, alors là, à partir de début 83, qui ciblent vraiment l'inflation comme étant un peu l'objet
l'ennemi à
abattre. Voilà, l'ennemi à abattre. Voilà. Et d'ailleurs, et ces politiques monétaristes marchent en grande partie, mais à quel prix, évidemment, à la fois en matière de chômage, en matière de précarité, en matière d'un certain nombre d'éléments qui...
Mais on a vraiment une baisse de l'inflation à partir du milieu des années 80, et l'inflation va rester à partir de ce moment-là à un niveau assez faible, Florence Jeanne
Catrice. Oui, absolument. C'est indéniable, en tout cas, quand on regarde l'évolution officielle de l'inflation, que, disons, à partir de 84-85, parce qu'il a fallu quand même 2 ans pour que ces politiques très drastiques, monétaristes, et puis, anti-inflationnistes, aient des effets. Mais, évidemment, alors d'ailleurs, c'est intéressant, il faudrait qu'on vienne maintenant sur l'indice de la CGT, parce que c'est justement le moment où la CGT se dit, bon, c'est peut-être plus tellement la peine d'entretenir ce contre-indice qu'on a élaboré précisément parce qu'on n'était pas d'accord avec l'indice officiel.
On va venir à ce contre-indice de la CGT, on en parle dans un tout petit instant.
Je ne peux l'acheter.
C'était « Je ne peux l'acheter » des Lionceaux sur France Culture. D'entendez-vous l'écho. Florence, Jeanne Catrice et Béatrice Touchelet sont toujours avec nous pour parler du calcul très politique de l'indice des prix à la consommation. Alors un changement important va se faire s'opérer en 1970. L'INSEE calcule un nouvel indice afin de tenir compte des profonds changements de la consommation, Béatrice Touchelet.
Oui, alors un nouvel indice, effectivement. Et parallèlement, le salaire minimum interprofessionnel garanti devient le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Voilà, c'est ça. Et alors, intéressant aussi, on est toujours dans un système d'indexation des salaires, cette échelle mobile introduite en 52.
Il y a 3,7 millions de salariés, je crois, voilà, en incluant les fonctionnaires qui dépendent de ce système d'indexation.
Donc c'est très très important. On est dans une économie qui est aussi beaucoup plus urbaine, hein, donc on a une meilleure mesure de la consommation, là aussi. Et puis, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le salaire minimum doit être revalorisé de 2%, si jamais, et non plus 5%, hein, et si jamais, effectivement, on a une augmentation l'augmentation de... Alors,
sauf que cet indice, ce nouvel indice de l'INSEE, il est extrêmement critiqué parce qu'il n'inclut pas les dépenses entraînées par la construction de logements et il n'inclut pas non plus les assurances ou les services domestiques.
Voilà, parce que l'indice INSEE, enfin là je vous passe les détails, mais est calqué en fait sur des données de la comptabilité nationale. Pour laquelle comptabilité nationale, la construction de logements est un investissement et non pas une consommation, donc tout ça est exclu de la prise en compte de l'indice. Alors résultat, la CGT... Tous les caisses d'allocation familiale aussi calculaient un indice. Enfin, tout le monde calcule son propre indice pour essayer de suivre un peu. Mais la CGT, la différence, c'est qu'à partir de 1972, la CGT calcule son propre indice. Ça, c'est pas de problème là-dessus. Mais il y a une publication. Résultat, non seulement...
Ça se veut un indice officiel.
Voilà, ça se veut un indice officiel alternatif. Et ça se veut aussi un indice qui est un indice qui s'appuie vraiment sur des enquêtes. Et la CGT fait des relevés comme... l'INSEE.
Eh bien justement, je vous propose d'écouter Jean-Louis Monod, qui est membre du comité confédéral de la CGT en 1972.
L'indice officiel est contestable dans son principe même, car il ne mesure pas l'évolution des prix réels des articles qu'achètent les consommateurs, mais une évolution fictive de prix ramenés à une qualité soi-disant constante. Et c'est une des différences essentielles entre notre indice, qui est un indice de prix qui mesure véritablement le coût de la vie, et l'indice officiel des prix qui ne mesure pas véritablement le coût de la vie. Notre indice représente l'évolution du coût de la vie pour un ménage d'ouvriers qualifiés de la région parisienne, ayant deux enfants et locataire de son logement. Il est calculé à partir de nombreux relevés de prix que nous effectuons dans tous les types de commerces de la région parisienne. Et il est établi, selon les techniques statistiques habituelles, calculé sur ordinateur. Et nous avons un résultat mensuel qui nous permet de mesurer l'évolution des prix réels.
Un indice concurrent dont la CGT va se servir pour négocier les salaires, Béatrice Touchelet.
Alors, dont la CGT veut se servir pour négocier les salaires, ne va pas, parce que c'est de l'indexation, c'est l'indice INSEE. Et systématiquement, l'indice CGT est au-dessus de l'indice pendant toute cette période de très forte poussée inflationniste.
Et est-ce qu'il n'y a pas un compromis qui est trouvé entre les deux indices, un juste milieu?
À ma connaissance, il n'y a pas de compromis.
Dans les négociations, au moins,
oui, sans doute, Florence
Janaketrix.
Oui, partout où la CGT était très majoritaire, elle utilisait son propre indice dans des flyers qui revendiquaient des augmentations de salaire. Mais Béatrice Touchelet a raison, c'est toujours l'indice des prix officiel qui est retenu comme indexateur. Mais dès lors qu'on dépassait cette indexation, on pouvait réclamer plus d'augmentation parce que l'indice de la CGT était de 2 à 3 points supérieur au moins jusqu'à la fin des années, au milieu des années 80, disons.
Alors, de toute façon, cette histoire s'arrête à partir de 83 puisqu'il n'y a plus d'indexation des salaires sur les prix. Résultat, parce que c'est le passage à la rigueur aussi, mais la CGT, c'est très coûteux pour un syndicat de faire de construire un indice. C'est extrêmement coûteux en temps, en argent aussi. Alors, ce qui est très intéressant pour l'INSEE avec cette histoire-là, c'est que l'INSEE fait une campagne justement d'explication. Il y a une campagne d'explication de l'indice, et pour l'historien, c'est évidemment un moment intéressant parce que c'est là que l'on comprend justement tous les enjeux beaucoup plus facilement.
Ça l'oblige à améliorer son indice qui, à ce moment-là, taxé d'indice des patrons.
Améliorer, il n'y a pas tellement... Non.
En fait, l'indice de la CGT, il a été publié entre 1972 et 1995. Et si la CGT arrête de le publier, c'est que d'abord, elle est plus aussi puissante qu'elle ne l'était auparavant. Deuxièmement, c'est parce que l'inflation n'est plus une question à partir de la fin des années 80 et que elle s'est substituée à la question de l'inflation, des questions autour des conditions de travail, de la flexibilité, et les syndicats sont beaucoup plus centrés sur ces questions à regret, je pense, de mon point de vue, parce que c'était un tapis ouvert sur toutes des fortes transformations de l'indice qui en ont suivi. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque la CGT a construit son indice, elle l'a pas fait de manière drastiquement différente dans sa philosophie. C'est ce que Moineau d'ailleurs dit par rapport à la philosophie de l'INSEE. D'ailleurs, la CGT était aidée par des syndicalistes de l'INSEE. Voilà, il y avait des formes de circulation un petit peu de compétences entre l'INSEE et la centrale de la CGT.
Mais en quoi elle cherchait à pallier les insuffisances de cet indice de l'INSEE?
En fait, elle prétend, d'ailleurs c'est ce que Moineau dit, il prétend vouloir construire un indice du coût de la vie, avec toutes les difficultés que comporte cette notion du coût de la vie, parce que la vie pour vous, la vie pour moi, c'est sans doute pas la même chose. Donc il y a une charge un peu normative derrière l'indice du coût de la vie. Et l'un des effets d'ailleurs de la production de l'indice de la CGT, c'est que ensuite l'INSEE, en tout cas dans toutes ses publications et ses communications, encore jusqu'à aujourd'hui, alors que moi je le conteste à titre personnel, c'est que l'INSEE dit que ce qu'elle construit avec son indice des prix n'est pas un indice du coût de la vie. Et que c'est juste un indice de mesure des prix d'un panier de biens, normalement plutôt de qualité constante dans le temps, dont on suit l'évolution moyenne des prix.
Et pourquoi est-ce que vous le contestez ?
Je conteste parce que je pense qu'il y a une bonne partie des réformes, je ne vais pas rentrer dans la technique maintenant parce que vous m'avez proposé de ne pas le faire, mais une bonne partie des réformes calculatoires de l'indice qui ont prévalu depuis le début des années 70 jusqu'à aujourd'hui, tout en fait converge vers un indice du coût de la vie, mais un certain indice du coût de la vie, ça serait plutôt un indice, diraient les économistes, micro-économistes de la consommation, un indice à utilité constante et non plus à qualité constante, avec cette idée que la qualité étant très difficile à capter, à mesurer, eh bien, si on travaillait sur une forme d'utilité, l'utilité du consommateur, alors on se mettrait à distance finalement d'une forme de normativité.
Justement, cette qualité, cet effet qualité, l'INSEE essaye de le quantifier, mais on peut se poser la question de qui est légitime pour évaluer la qualité. Ça, c'est extrêmement compliqué, Florence Janicatrice. Est-ce que c'est uniquement le consommateur ? Ça, c'est ce que dit par exemple Philippe Erlin.
Oui, alors ça c'est la question de la qualité est vraiment une question absolument essentielle. Et d'ailleurs, avant peut-être de répondre à cette question sur la qualité, je vais revenir sur ces grands bouleversements dans la consommation, dans les pratiques de consommation. Ce qui était pas trop difficile, mais il faut pas non plus idéaliser la période des années 70, mais ce qui était peut-être pas trop difficile du point de vue de l'INSEE dans les années 70, c'est que la période du régime, disons, de concurrence et de production, c'était était liée à des formes de standardisation de la consommation. Vous voyez que vous consommiez un peu, c'est un peu on avait l'idée d'un consommateur moyen, peut-être aussi un idéal aussi d'égalité de classe moyenne. Et la standardisation faisait que les biens étaient toujours à peu près stables dans le temps. Vous voyez, vous aviez une baguette, elle faisait 250 grammes, et puis on suivait l'évolution de cette baguette dans le temps, ça allait. Et puis petit à petit, bien la baguette, on a ajouté des graines de sésame, on l'a faite par épi, aujourd'hui elle a de la farine bio. Est-ce qu'on compare la même chose ? Et si le prix augmente, s'agit-il d'un effet, disons, inflation, augmentation vraiment du prix pur, comme diraient les statisticiens de l'INSEE, ou s'agit-il de l'évolution de la qualité ? Et au fond, toute la période de ce qu'on appelle dans le régime de production, toute la période de déstandardisation, toute la période aussi de stratégie de pricing, comme vous allez le voir dans les séances prochaines, c'est-à-dire l'idée que de plus en plus on travaille sur des indices individuels de prix où on a des variations infra parfois même journalière de prix.
On va effectivement parler demain.
Et tous les enjeux autour de l'évolution des services, les activités de service sont par essence difficilement standardisables. Alors évidemment, il y a toujours la possibilité d'être dans la McDonaldisation du monde, mais on sait que la McDonaldisation du monde, elle est aussi, elle s'est développée parallèlement à des services qui sont très idiosyncrasiques, c'est-à-dire qui sont très individualisés, qui sont très singuliers.
Or, c'est 50% des dépenses dans l'indice des prix à la consommation,
oui,
les services aujourd'hui.
À peu près, effectivement. Et on voit que toute cette grande transformation dans la structure de la consommation a créé vraiment des questions absolument redoutables pour la statistique publique, évidemment qu'elle essaye de traiter tant bien que mal, d'une certaine manière, mais je pense que la complexification à la fois des régimes de production et de consommation vont beaucoup plus vite que les modifications de l'INSEE pour transformer son indice. D'une certaine manière, elle court un peu après la réalité qui se défait sous ses pieds, comme dirait Boltanski Esqueret.
Et c'est pour ça qu'elle est extrêmement critiqué. Il y a cette idée que l'indice est surévalué si l'augmentation de la qualité n'est pas suffisamment prise en compte. Ça, c'est ce qui ressort d'un rapport publié par un professeur d'économie de Stanford, Michael Boskin, au milieu des années 90. Florence Janicatrice.
Ouais. Alors bon, la période Boskin du début des années, du milieu des années 90, est très très intéressante parce que alors on a Alan Greenspan qui est à la tête de la Fed et qui a une obsession, c'est de réduire les déficits publics américains, de réduire les dépenses publiques, etc. Et l'un des leviers, évidemment, c'est pas le seul, mais l'un des leviers qu'il a trouvé, c'est de considérer que toutes les prestations sociales et toutes les dépenses publiques auprès des personnes qui bénéficient de ces prestations sociales sont trop élevés. Et une manière de les réduire, c'est de réduire la mesure de ce repère cognitif qu'est l'inflation. Et donc, plutôt que d'avoir cette espèce de... Voilà, d'avoir cette assurance, un peu comme le ferait aujourd'hui un gouvernement en disant « je désindexe complètement », il joue sur l'index lui-même, il joue sur l'indice des prix. Et pour se couvrir, d'une certaine manière, il publie un rapport, ou il fait publier un rapport qu'il commande à Michael Boskin. Et à Michael Boskin, il ne lui demande pas « est-ce que l'inflation aux États-Unis est surestimée ?» Il lui dit « dites-nous de combien l'inflation est surestimée ». Autrement dit, Greenspan savait d'avance que... Voilà, exactement. Et Boskin, dans ses travaux, trouve des chiffres absolument mirobolants, puisqu'il considère que l'inflation aux États-Unis, dans les 10 années qui ont précédé son rapport, donc 85-96 à peu près, eh bien, l'inflation aux États-Unis aurait été surestimée tous les ans de 1,3 point. Ce qui est évidemment énorme, parce que disons, à l'époque, on était autour de 5 points d'inflation, je dis un peu de tête, donc ça représentait peut-être 20% ou 25% d'estimation.
Surestimé car les produits offrent plus de services que ce qu'ils offraient auparavant. C'est cette idée d'un effet qualité.
Alors, ils mettent en avant deux effets. Le premier, c'est un effet de ce qu'on appelle... C'est le fait que les individus, en fait, dans leur pratique de consommation, seraient très rationnels. Et lorsqu'ils ont devant eux plusieurs choix de biens, ils orientent leur consommation plutôt sur le bien qui est le moins cher, forcément. Évidemment, tout ça fait fi de l'idée qu'on n'est pas du tout dépendant de marques, on n'est pas du tout dépendant d'habitudes de consommation. Et donc, ça fait fi de toute la sociologie
sociale de la consommation.
Évidemment, donc ça fait l'hypothèse d'une rationalité parfaite de l'individu consommateur. Mais on voit là toute la tradition de la théorie microéconomique du consommateur qui est très 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 forte déjà chez Boskin. Et puis le deuxième élément, vous avez absolument raison, c'est l'idée que effectivement la qualité serait absolument sous-estimée et que comme on sous-estimerait la qualité, qui dans la tête de Boskin nécessairement est toujours positive, hein, comme s'il n'y avait jamais de dégradation de la qualité des biens, des services qu'on consomme, eh bien, conduirait à une sous-estimation de l'inflation. Et à partir de là, mais déjà en amont, hein, la question de la qualité devient une question centrale et il y a différentes méthodes qui visent à essayer de capter cette qualité. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, hein, les grandes questions autour de la qualité, c'est qui décide de cette qualité et qui la juge, quoi, hein. Est-ce que c'est à dire d'experts? Est-ce que c'est à dire de producteurs? Producteurs n'ont jamais intérêt à dire que la qualité régresse, ou sinon je mange mon chapeau, et les consommateurs qui sans doute sont beaucoup plus captifs et ont une qualité certainement beaucoup plus contrainte qu'on ne le pense, mais la question de la qualité contrainte était déjà défendue par la CGT dans son indice des prix, puisqu'elle n'en tenait pas compte dans son indice CGT des années 70.
Béatrice Touchelet, qu'est-ce que l'historienne que vous êtes pose comme regard sur cet effet qualité dont on parle ?
Alors ça a toujours été ça a toujours posé un problème. Enfin surtout à partir du moment où les changements de la consommation, hein, et des produits disponibles s'accélèrent, hein, dans les années 60, 70. Bon, comment prendre en charge la télévision, le livre de poche qui est créé en 53 ou 54, hein, donc c'est pas nouveau, si ce n'est sans doute que là les changements s'accélèrent encore. Il y a aussi la question de l'obsolescence. Florent, ça on ne sait pas comment on peut tenir compte de ça. Il y a aussi la question des dépenses contractualisées qui n'existaient absolument pas.
Alors de quoi s'agit-il ?
Vous avez obligation, si vous prenez un abonnement chez XX, de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone portable, évidemment, hein, tout ça. Bon, vous avez votre abonnement aussi qui est votre abonnement informatique. Et là, vous contractualisez, c'est-à-dire que vous vous engagez non pas pour la période qui vient, mais vous vous engagez souvent pour 6 mois, 12 mois.
C'est intéressant.
Ce sont des dépenses qui pèsent très lourd dans le budget des ménages.
Et qui pèsent de plus en plus lourd, cette part de dépenses contraintes.
Parce que maintenant, vous avez aussi l'abonnement télévision, vous avez l'abonnement, les chaînes, vous avez des abonnements. Les dépenses contractualisées, donc contraintes, et on n'était pas du tout dans les mêmes dépenses contraintes. Le sens de la contrainte de consommation a complètement changé.
Florence Yannick-Catrice. Oui, alors la terminologie autour de ce type de dépenses qu'évoque Béatrice Touchelet dans la littérature économique a beaucoup joué, parce qu'évidemment, la notion de contrainte pose problème aux économistes, hein, qui considèrent que le consommateur est toujours totalement souverain et libre dans son dans son acquisition, dans ses achats. Et on le voit quand on fait des entretiens avec les statisticiens d'INSEE, l'ancienne génération, enfin celle pour moi était plus pluraliste, voilà, pas trop de difficultés avec cette idée de dépenses contraintes. Et il y a quand même une partie qui est assez réticente. Alors aujourd'hui, l'espèce de statu quo qui a été trouvé, c'est de parler de dépenses pré-engagées. C'est ça la statistique que développe l'INSEE autour des dépenses d'abonnement qui relèvent ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs de l'économie de l'accès au sens de Jeremy Rifkin, c'est-à-dire le fait qu'on de moins en moins on accède à des propriétés de biens, mais plutôt qu'on accède à des usages, hein, location, abonnement, etc. Ils mettent aussi la cantine dedans. Et tout ce que vous devez dépenser avant de commencer à consommer et dont la part progresse dans le temps, vous avez tout à fait raison, puisque au début des années 60, on était autour de 15%, et aujourd'hui, on est plutôt autour de 32%, donc ça a été une explosion de ces dépenses pré-engagées. Et ce que la DRES a montré récemment, ça c'est assez intéressant, c'est que, évidemment, ces dépenses pré-engagées n'ont pas la même pression selon qu'on est dans les ménages les plus pauvres ou dans les ménages les plus riches. Dans les ménages les plus riches, ça représente 29% de l'ensemble des revenus, qui sont évidemment par construction plus élevés, et pour les ménages les plus pauvres, ça représente 39%, donc 10 points de plus. Et sur du coup, le revenu arbitrable, hein, vous voyez, ce revenu sur lequel il n'y a pas de contrainte, et l'idée de revenu arbitrable aussi se développe un peu dans le débat un peu intellectuel, et bien ce revenu arbitrable, il est très inégal, hein, et peut-être qu'aujourd'hui, quand on raisonne en termes d'inégalité, il faudrait raisonner en termes d'inégalité de revenu arbitrable et pas simplement en termes d'inégalité de revenu. Et du coup, la question de l'inflation devient une question absolument décisive pour l'étudier.
Vous avez cité cet épisode tout à l'heure, Florence Génicatrice, ce moment de création de l'euro, qui est un autre moment où l'indice de l'INSEE est extrêmement critiqué. Je vous propose d'écouter le secrétaire d'État chargé des PME, du commerce et de l'artisanat et de la consommation, François Patria, qui s'exprimait chez nos confrères de France Inter le 14 janvier 2002.
Et ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que si le passage à l'euro s'est réalisé dans de bonnes conditions, il y a ici et là, et notamment dans le secteur des services, des petits malins qui aujourd'hui auraient tendance à profiter du passage à l'euro. Alors que peut faire le gouvernement ou que fait le gouvernement? Je rappelle que nous sommes dans une époque de liberté des prix et qu'il n'est pas question de revenir au blocage des prix. Mais que dans le même temps, les services de l'État et les consommateurs eux-mêmes, à travers leurs associations et les consommateurs individuellement, exercent la vigilance aujourd'hui à travers tout ce qui peut être dérapage ou malversation. Double affichage mal fait, mauvaise conversion, fausse solde, faux appel. Et tout cela, nous le contrôlons, tout cela est délictueux. Nous allons les rappeler à l'ordre. Et enfin, nous allons rendre transparent, comme nous l'avons fait, ceux qui aujourd'hui n'ont pas un comportement civique.
L'euro était censé permettre une meilleure stabilité des prix, c'est ce qui avait été dit à l'époque, Florence Génicatrice. Or, le problème, c'est que ce n'est pas ce que constatent les consommateurs français au moment du passage à l'euro fiduciaire en 2002.
Alors, effectivement, en 2002, on observe une très très forte fébrilité qu'on peut lire dans les journaux de l'époque, avec vraiment Fabius qui intervenait de manière massive pour rappeler la crédibilité qu'il fallait avoir en l'euro. Bon, il faut rappeler que l'euro est une monnaie et que toutes les monnaies sont des institutions centrales et que la création un peu ex nihilo de cette monnaie a créé des controverses absolument majeures et qu'il y a un certain nombre de citoyens qui s'y sont pas reconnus, en tout cas qui ont eu besoin de temps pour s'y reconnaître, et que cette forte fébrilité s'est traduite par une perte de confiance finalement dans la monnaie. Et une perte de confiance dans la monnaie, ça se traduit par une perte de confiance finalement dans l'indice des prix à la consommation, puisqu'on peut considérer, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, que c'est une perte de la valeur de la monnaie, d'une certaine manière, l'indice des prix à la consommation. Et donc cette fébrilité et cette perte de confiance, elle s'est vraiment traduite par une explosion de l'indice de perception qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à l'indice officiel qui, lui, officiellement, restait relativement stable dans le temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, l'INSEE a quand même essayé de trouver des explications de ce hiatus vraiment majeur entre la perception des citoyens et puis l'indice officiel. La première chose qu'elle a essayé essayé de mettre en avant, ce sont des explications d'ordre structurel. Est-ce que ça serait lié au fait qu'il y a des inégalités, des inégalités entre catégories socioprofessionnelles ou entre déciles qui feraient que personne ne se retrouverait dans un indice moyen en quelque sorte. Et c'est pour différentes raisons, ces explications un peu structurales n'ont pas abouti, en particulier parce qu'il faudrait aussi travailler sur des effets de gamme sur lesquels l'INSEE n'arrive pas à travailler ou en tout cas se donne pas les moyens de travailler. Alors il y a d'autres explications qui ont été données qu'on retrouve un peu dans la capsule que vous nous avez passée. C'est des éléments un peu psychologiques, le fait que il y a des biens qu'on consomme plus fréquemment et sur lesquels peut-être l'augmentation des prix a été plus importante, mais c'est pas parce qu'on les consomme plus fréquemment qu'ils ont un poids, ce qu'on appelle un coefficient budgétaire plus important dans l'ensemble des consommations. Et donc ça a été un élément qui a été mis en avant aussi. Et puis le troisième élément qui a beaucoup été agité à ce moment-là, c'est ces fameuses dépenses contraintes qu'on évoquait et qui sont aussi ces dépenses prépayées.
Sans compter le logement aussi, à cette idée qu'il y a une insuffisante prise en compte dans l'indice des prix des dépenses de loyer.
Absolument. Alors le logement, en fait, on aurait pu l'évoquer depuis le début de l'histoire parce que le logement a toujours été une question absolument critique dans l'indice des prix à la consommation. Le parti pris de l'INSEE a toujours été de dire, ce qui est aussi celui d'Eurostat, parce qu'on n'a pas parlé de l'IPCH, mais l'indice l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau européen, mais dans tous les cas, c'est seulement le loyer qui est pris en compte et pas l'acquisition du logement. Or, en France, on a une part de propriétaires qui est importante. Et donc, c'est ça, 60%. Et donc, si vous retenez 60% de propriétaires, eh bien, d'une certaine manière, l'évolution du prix de leur logement, il est sous les radars d'un indice des prix à la consommation. Et donc, l'indice des prix ne calcule pas la pression du logement sur l'ensemble des prix. Et la CGT, par exemple, avait quasiment doublé le coefficient budgétaire du loyer dans son indice des prix alternatif. Et aujourd'hui, Erlin et Todd sont aussi sur cette question du logement. Et bon, il faudrait avoir plus de temps pour en discuter. Mais c'est vrai que l'indice des prix à la consommation, dit l'INSEE, c'est un indice des prix à la consommation et pas de l'investissement. Et on considère qu'un ménage qui acquiert son logement investit et ne consomme pas.
Mais est-ce que ça ne devrait pas, justement, être le lieu de débat? On voit que le travail de production statistique donne lieu à des interprétations contradictoires. Est-ce qu'il ne faudrait pas en débattre dans l'espace public, Florence Janicatrice?
Bon, moi, ce que je dis dans mes travaux, c'est que quand on regarde les controverses autour de l'indice des prix, qui, à mon avis, n'est pas prêt de se tarir, il y a en fait deux logiques qui sont à l'œuvre. Il y a la logique redistributive sur laquelle Béatrice est beaucoup intervenue aussi, c'est la logique qui consiste à dire qu'à partir du moment où c'est un indexateur ou un quasi-indexateur, un repère cognitif pour négocier ses augmentations de salaire ou de prestations sociales ou que sais-je, eh bien inévitablement, il va avoir une capacité politique et il va être l'objet de controverses, sous-estimation, surestimation de l'inflation. Mais il y a aussi à l'œuvre une logique de représentation des richesses. Qu'est-ce qu'on compte quand on veut compter l'évolution de la qualité dont on va faire fi. Et la question de la qualité, elle est aussi une question de comment et qu'est-ce qu'on mesure dans les richesses qui sont produites.
Et ça peut être quelque chose de très personnel. C'est pour ça qu'en Allemagne, il y a un calculateur individuel qui a été lancé, qui permet de mesurer son inflation personnelle.
Oui, alors je pense qu'au moment où ça a été mis en place en Allemagne en 2006, ce simulateur individuel, qui fait écho peut-être au simulateur du calcul des retraites, eh bien l'idée c'était de dire, pour apaiser la controverse, peut-être il faut rappeler à chaque individu qu'il n'est pas un consommateur moyen et que si chacun va intégrer ses coefficients budgétaires personnels, il peut se calculer son inflation moyenne. Alors évidemment, si on rappelle les usages de l'inflation, en particulier le fait que c'est, je le rappelle, un indice, un repère cognitif collectif, et si ensuite chacun peut calculer son propre indice. Ça signifie, évidemment, l'INSEE va dire que c'est pas du tout l'usage qu'il faut en faire, mais ça signifie que chacun, individuellement, va aller brandir son indice personnel des prix et négocier personnellement son augmentation de salaire. On voit aussi qu'on a une forme de fragmentation des espaces calculatoires, ce que Alain Desrosières, on va finir par lui aussi, ce qu'Alain Desrosières a bien présenté dans ses travaux comme étant tout à fait exemplaire d'un État néolibéral.
Alors, est-ce que la solution passe par la multiplication des indices? Je pense à celui qui avait été élaboré en 2004 par le Bureau d'information et de prévision économique et qui disait que le pouvoir d'achat effectif des Français diminue. Est-ce qu'on a besoin d'indices qui se multiplient pour approcher au plus près la valeur réelle, le prix le plus pur dont vous parliez, Florence Denis-Catrice?
Bon, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, mais je pense qu'il faudrait déjà, mais j'explique pas assez pourquoi, mais il faudrait repluraliser un petit peu ces espaces d'évaluation de ces indices macroéconomiques, que ce soit le PIB, la croissance, l'inflation, la dette, etc. Bon, repluraliser, ça veut dire aussi retrouver du pluralisme dans l'économie. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, puisqu'il y a une telle multiplicité d'usages de l'inflation, il faudrait sans doute, multiplier, comme le proposaient déjà Philippe Moati et Robert Rochefort dans leur rapport de 2008, multiplier les indices. Alors bien sûr, l'INSEE les calcule, mais elle ne les met pas assez en avant et il faudrait à chaque indice son usage.
Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet pour le journal de l'Écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Parmi les augmentations fiscales annuelles de mars, le nouveau bonus-malus automobile, taxe écologique censée favoriser l'électrification, mais qui pourrait ressembler à une marche forcée pour les constructeurs.
Et oui, d'abord parce qu'on est dans un contexte général de recul des ventes assez notable, moins 2,7% sur un an, et puis surtout parce que le contexte réglementaire et fiscal se durcit beaucoup avec ce nouveau bonus-malus donc sur l'achat de véhicules neufs. Pour le malus, il intègre de nouvelles normes en fait écologiques qui abaissent drastiquement les seuils d'émissions non taxés de 25%. Quant au bonus, eh bien, il doit favoriser les achats de véhicules électriques. Cependant, avec une enveloppe de 400 millions d'euros cette année, il ne pourra pas financer les 100 000 ventes que les constructeurs visent pour 2020, sinon à perte. Ajouter à cela un contexte réglementaire européen, des nouvelles normes encore plus restrictives que les normes françaises depuis le début de l'année sur les émissions et l'épée de Damoclès des amendes ou de milliards d'euros d'amendes même, l'année sera délicate, explique en tout cas Thomas Sopardi. C'est le co-directeur du GIS, Gér Pisa, le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile.
On a déjà vu ça avec la Norvège, qui est les pays précurseurs de la vente de véhicules électriques, qui a une fiscalité très dure en termes des malus. Donc tout cela est attendu. Est-ce qu'on aura les mêmes volumes de vente en électrique qu'on aurait eu en thermique? Ce n'est pas évident du tout. Donc les constructeurs, je pense, attendent logiquement à voir l'enveloppe globale des ventes baisser en 2020 et en 2021. C'est les prix à payer pour ne pas payer des amendes très salées en 2021. Des ajustements politiques vont se faire en cours de route. Est-ce que les hybrides rechargeables seront intégrés? Est-ce que l'enveloppe sera augmentée? Tout cela reste à voir. Il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'il y a une espèce d'avis de tempête qui est là et on navigue un peu à vue parce que tous les constructeurs, il n'y a personne qui échappe, sauf peut-être Toyota qui est un peu mieux placé que les autres. Tous les autres ont l'obligation d'augmenter drastiquement les ventes de véhicules électriques, électriques rechargeables, sans oublier que dans ces jeux-là, les constructeurs allemands qui fabriquent des gros véhicules ne sont pas moins bien placés que les constructeurs qui fabriquent des petits véhicules en France, puisque la norme CO2 est proportionnelle au poids. Et donc, compte tenu du fait que les Allemands vendent des véhicules plus chers, ils ont une plus grande capacité à intégrer les coûts de l'électrification, alors que pour les constructeurs français, réussir à vendre des véhicules moins de gamme électrifiés sans y perdre trop d'argent, c'est pas évident du tout.
Les ventes de véhicules électriques continuent d'augmenter, mais les constructeurs doivent aussi continuer à faire des investissements massifs dans l'électrification.
Oui, là, ce sera un problème aussi. Selon une étude récente d'un cabinet spécialisé, ils devraient investir entre 1700 et 7000 euros par véhicule électrique vendu. Et les Français, PSA et Renault-Nissan, sont apparemment les plus économes, hein, autour de 2000 euros. PSA, lui, augmente ses marges, mais risque en plus de récupérer avec Fiat Chrysler un boulet écologique, comme dit Thomas Zopardi. Quant à Renault et Nissan en déficit, ils doivent se le relancer. Alors passeront-ils le cap? Contrairement à plusieurs constructeurs allemands, en tout cas les Français n'ont pas annoncé de réduction d'effectifs.
On passe au bref, le journal de l'économie, ou plutôt de l'automobile, continue avec un règlement en vue pour l'affaire du Dieselgate. Volkswagen va payer des millions d'euros à ses anciens clients.
Oui, après avoir déjà dépensé 30 milliards en amendes et en frais divers aux États-Unis et Union européenne pour avoir fraudé les normes anti-pollution via un logiciel sur 11 millions de véhicules, Volkswagen va désormais répartir 830 millions d'euros envers ses anciens clients dupés et qui ont dû revendre en partie leurs véhicules à perte. Volkswagen n'a d'ailleurs peut-être pas fini d'essuyer ses conséquences judiciaires de cette fraude en 2015, puisque des investisseurs veulent aussi se rembourser de la décote soudaine de l'action Volkswagen à l'époque.
Et des constructeurs automobiles seraient mêlés, parmi d'autres multinationales, à l'exploitation forcée de Ouïghours en Chine.
C'est ce qu'affirme un rapport d'un institut australien titré sans ambiguïté Ouïghours for Sale, des Ouïghours à vendre. Selon les chercheurs, environ 80 000 de ces habitants du nord-est chinois verrouillés par les autorités sont aussi utilisés et mis au travail dans des usines qui fournissent ou sous-traitent pour 83 grands groupes internationaux. 27 sites sont évoqués dans l'étude, dont certains sans ambiguïté effectivement, comme une usine d'un fournisseur de Nike équipé, je cite, de miradors, barbelés et policiers en faction à l'entrée. Apple, Huawei, mais aussi des marques automobiles comme BMW ou Volkswagen sont cités.
Et pour finir, le coronavirus, les marchés financiers suspendus à l'annonce des banques centrales.
Oui, alors que les bourses se reprennent doucement et après les annonces des gouverneurs de banques centrales américaines qui se disaient prêts à utiliser les outils de la Fed et celui de la japonaise plus précis qui évoquait des opérations de marché et rachat d'actifs. Alors il n'est pas question de baisser les taux pour l'instant, mais qui sait.
Merci beaucoup Xavier, on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho.
Years after you've gone, I'm feeling fine and I fight to be strong. But when I'm laughing, well, it's not quite the same. Years after the tears, I swore to not let it happen again. The pain is gone, but so is the flame. How will I know?
Right from How will I know de Yaël Naïm. Merci beaucoup Florence Janicatrice et Béatrice Touchelet de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le labyrinthe de la statistique. Cette émission a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Alia Tovin et Alain de Recourt. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Élise Leu. Demain, le prix est-il l'expression pure et parfaite de la rencontre entre l'offre et la demande? Qu'en disent les théoriciens? On posera la question à David Kella et Philippe Moati. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.